Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa réflexion sur la place du renseignement en démocratie avec, pour ce troisième épisode, la description du quotidien d'un membre d'un service action de la DGSE. Le Bureau des légendes a montré au grand public avec quel succès le quotidien de la vie d'un service de la DGSE, et cette série en quelque sorte relayée par l'image le roman d'espionnage, un genre littéraire très connu et bien prisé. Également, on pense à John le Carré ou à Robert Little, mais qu'en est-il en réalité de la vie d'un agent secret? Quelles sont ses peurs? Quels sont ses dilemmes éthiques? Quelles sont ses relations avec la loi, avec son administration? Est-ce qu'il n'a pas aussi des problèmes d'identité à force de faire ce métier si particulier? Eh bien, ce sont les questions que l'on va aborder ce soir avec un ancien membre du service action de la DGSE qui a opéré sur un certain nombre de théâtres de conflits et que nous appellerons pour les besoins de la cause François, parce que bien sûr il ne peut pas révéler son véritable nom. Bonsoir François.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on rentre à la DGSE? Quand je dis ça, c'est pas uniquement la procédure, mais les raisons. Qu'est-ce qui donne envie, comme on dit aujourd'hui?
J'imagine qu'il y a autant de motivations qu'il peut y avoir d'individus. Déjà, il y a quand même deux grandes catégories, ce sont les civils et les militaires. Moi, j'étais plutôt du catégorie civile. Et en fait, maintenant que je peux retracer l'itinéraire, c'est devenu très jeune. Très jeune, j'avais la passion des relations internationales. Vous citiez John le Carré, oui, que j'avais dévoré de A jusqu'à Z, ou également Robert Little, ou son fils Jonathan. Et à chaque fois, ça me parlait tout simplement. Et mes études ne m'avaient pas particulièrement poussé à ça, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce type d'activité, parce que sinon j'allais devenir fou.
Mais quand on a 15 ans, on rêve. Quand on lit John le Carré, c'est grisant. Et j'imagine que quand on rentre dans une administration, c'est un peu moins grisant, non?
Oui. Alors, on n'a pas tous la même chance. Et moi, j'ai eu la chance d'appartenir à des unités qui étaient particulièrement dans le cœur du sujet. Et donc, j'ai eu une activité au moins pendant une décennie grisante.
Le cœur du sujet, ça veut dire le cœur du conflit?
Le cœur du renseignement. Le conflit étant un des endroits où on peut faire du renseignement, mais on peut faire tout à fait du renseignement dans une capitale, Vienne, Istanbul, qui est tout à fait paisible, mais où on rencontre des acteurs des différents conflits sur lesquels on peut travailler.
Je vais poser une question naïve, mais c'est quoi faire du renseignement, François?
C'est fournir à l'échelon politique la meilleure information au meilleur moment. Le meilleur moment, c'est très important. Au meilleur moment pour prendre la meilleure décision, si c'est possible.
Mais pour ça, il faut faire beaucoup de choses. Il faut rencontrer des gens, j'imagine, non?
C'est d'abord un métier relationnel. Il faut aimer les gens. Et les femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes.
C'est bien comme métier, ça. J'imagine que ça doit attirer beaucoup de gens, ça, non?
Alors, ça attire aujourd'hui, étonnamment, quand j'étais plus jeune et quand je suis rentré, c'était moins à la mode. Les différents succès médiatiques comme le Bureau des légendes font qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive, massive. Et donc, ça permet de faire un tri assez différent.
Mais ce n'était pas le cas il y a 20 ans.
C'était moins le cas. Les services français ont longtemps porté une image un peu de barbouzerie qui était, en tout cas moi, de ce que j'en ai vu, qui était totalement inadaptée, et peut-être une méconnaissance de l'échelon politique. Et maintenant, il y a une meilleure entente. D'abord, à la fin des fins, un service de renseignement ou un service spécial qu'est la DGSE, c'est pas un service d'enseignement, mais un service spécial, permet...
C'est-à-dire un service spécial?
Eh bien, un service de renseignement ne fait que du renseignement. Or, vous l'avez cité, la DGSE comporte tout à fait officiellement un service action. Donc, il y a à la fois l'activité de renseignement classique, d'analyse, et une activité plus concrète, paramilitaire ou militaire.
Et vous étiez du service action?
Moi, j'étais du service action.
Quoique n'étant pas militaire. Parce que c'est une certaine culture, j'imagine, non? Comment est-ce qu'on acquiert ces réflexes? Comment est-ce qu'on absorbe une légende? Comment est-ce qu'on vit sous une fausse identité? C'est un véritable mode de vie, j'imagine, non?
C'est un, un mode de vie holistique, enfin totalitaire.
Parce c'est-à-dire
que soit on le fait à 100%, soit on le fait pas. On peut pas avoir ce type de vie en arrêtant à 17h ou à 19h ou à 20h le soir en rentrant chez soi. En fait, on y pense tout le temps. Ça implique l'ensemble de vos catégories dans la vie. Les gens ont souvent un travail, des loisirs, une famille. Et d'une certaine manière, quand on vit ce type de vie légèrement clandestine ou en tout cas parallèle, il faut que tous les compartiments de l'existence soient impactés d'une manière ou d'une autre. La famille, qu'est-ce qu'on dit à la famille, qu'est-ce qu'on dit à l'épouse ou à l'époux, qu'est-ce qu'on dit aux amis, qu'est-ce qu'on dit aux parents qui veulent pas s'inquiéter, donc faut pas les inquiéter. Et donc là, chacun trouve une solution, parce que là, il n'y a pas de solution universelle. J'ai eu des amis qui n'ont rien dit, même à leur propre épouse, ce qui me semblait un petit peu compliqué quand même pour expliquer pourquoi on partait plusieurs semaines. Mon épouse était tout à fait au courant, mes enfants pas du tout, et mon très proche cercle amical l'était, et me permettait d'une certaine manière de contrôler et de sécuriser les cercles amicaux plus distants, parce qu'ils participaient de cette construction de la légende.
Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, quand on fait un métier aussi particulier, à rencontrer que des gens qui font le même métier ?
En fait, non. En tout cas, pas dans l'activité dans laquelle j'étais. Au contraire, moi, je rencontrais essentiellement des gens qui ne faisaient pas ce type d'activité, mais qui gravitaient dans les zones de conflit ou les zones d'intérêt pour nous, mais qui pouvaient être de... J'ai jamais rencontré autant de gens différents qu'à cette époque de mon existence. Quand vous travaillez pour une organisation économique classique, je sais pas, vous travaillez pour Total, vous allez rencontrer des pétroliers pendant des années et des années. Moi, j'ai rencontré de tout, des journalistes, des universitaires, des politiques, des militaires, des chauffeurs de taxi,
mais de tout. Est-ce que eux, ils vous ont rencontré ?
Ils ont rencontré une partie. Ils ont rencontré un exemplaire qui pouvait changer en fonction de la situation.
Parce que ça va être très difficile d'être professionnel. J'essaie de m'imaginer, ça va être très difficile d'être professionnel pour ses sentiments, dans sa vie privée, quand on passe des mois loin de chez soi, dans des contextes assez particuliers, j'imagine. Comment est-ce qu'on peut être professionnel jusque dans sa vie affective, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas un piège ? C'est un marronnier ce que je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, une fragilité qui ne vient pas de la part professionnelle, mais qui vient de la part affective, de la part intime ?
Ce serait peu judicieux de ma part de dire que ce n'est pas vrai. Chacun affronte un certain nombre de démons personnels ou de démons intérieurs ou de problématiques ou de fractures, et chacun les gère différemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, la légende d'une personne qui agit sous couverture, il faut qu'elle colle au plus à la réalité. C'est comme un mensonge. Pour qu'un mensonge soit efficace, il faut qu'il y ait 5% de mensonge et 90% de réalité. Mais 5% essentiel. Il faut que la personne se sente bien dans l'activité professionnelle qu'elle est supposée mener, que ses qualités et ses défauts personnels soient les mêmes. Là, pour le coup, on ne peut pas jouer la pièce de théâtre très longtemps. Mais les 5% essentiels qui vont faire la différence vont être totalement crédibilisés par le fait que le reste, c'est vous. C'est jamais que vous, quoi. Vous, votre vrai vous. Mais c'est votre vrai vous, mais qui n'a pas le même nom, qui n'a pas tout à fait le même travail, et dont les gens en face en garderont en mémoire les 5%. Mais ils ont été crédibilisés par les 90% de vrais.
Mais ces 5%, on ne les lâche pas.
On ne peut pas. Parce que sinon, c'est toute la sécurité de la personne, éventuellement de l'équipe et de toute la mission qui est remise en cause.
Et c'est pas difficile parfois de pas les lâcher. Je pense aux relations amoureuses. C'est-à-dire, on passe 6 mois ou sous une fausse identité. Ça doit, j'imagine, arriver à ce qui est.
Oui, j'ai plein d'exemples en tête où des gens de mon équipe ça a pu arriver. Quelqu'un, en général, en plus, c'est comme des métiers, en tout cas au départ, qu'on fait quand on est assez jeune. Donc, imaginons un jeune célibataire, il aura le droit d'avoir une vie. Une vie. Et au contraire, quelqu'un qui resterait 6 mois dans une zone de tension, où en général, il y a l'adrénaline qui se crée, et donc des hormones, et qui n'aurait pas le droit à une vie affective ou amoureuse, ça serait quand même carrément étrange. Donc au contraire, ça participe de la sécurité opérationnelle. Ensuite...
Une maîtrise totale.
Une maîtrise totale, oui. Une maîtrise totale et une fin prévue. Parce que forcément, à un moment donné, vous rentrez en France, vous rentrez ailleurs, et vous reprenez votre nom, et la personne précédente que vous auriez pu aimer, si vous franchissez le Rubicon et que vous lui expliquez « Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, mais c'est pas tout à fait mon nom ». Alors imaginez, à titre personnel, une relation qui partirait sur un mensonge de cette magnitude. Donc en général, en fait, c'est un CDD, quoi.
Est-ce que c'est pas la fin, justement, le fait qu'il y a un délai, qu'on sait qu'il y a un délai, que ça va se terminer un jour, c'est pas ça qui permet de tenir?
Je crois pas. Je crois que ce qui permet de tenir, en fait, on le sait très vite. Si quelqu'un fait ce métier-là, si au bout de quelques semaines, il commence à avoir des palpitations, ou même, j'ai eu un cas d'ulcère à l'estomac d'une personne de moins de 30 ans, ce qui est quand même assez peu courant. Bon ben, ça veut dire que la situation va pas tenir.
Qu'il est pas fait pour ça.
Oui, qu'il n'est pas fait pour ça. Et ça, tous les profils psychologiques, on avait bien sûr des profils psychologiques établis qui essayaient de déterminer si on était fait pour ça. Mais clairement, j'ai pas l'impression que ça marchait extraordinairement bien. Et en fait, on se rend compte, il y en a qui sont naturellement faits pour ça, une espèce de schizophrénie naturelle.
Qui sont aptes à la schizophrénie de l'agent secret.
Sans le côté pathologique, faut espérer.
Oui, au contraire. Et c'est ça peut-être la force, c'est de toujours garder la tête froide sur quel est l'objectif, quelle est la finalité, qu'est-ce qu'on cherche à collecter comme renseignement. Alors, avant de venir à l'exploitation de ces renseignements, je voudrais revenir parce que j'imagine que ça doit être assez grisant, assez enthousiasmant de rencontrer des tas de gens différents, d'être des tas de gens différents d'abord. C'est une sorte de carnaval permanent, hein. On est sur un masque qui n'est pas soi, mais on rencontre des tas de gens et j'imagine, François, des gens pas très recommandables.
Alors là, si ça dépend. Est-ce que vous êtes recommandable?
Non, je ne sais pas. On ne sait pas. Certainement pas. Mais disons que j'ai pignon sur rue.
J'imagine mais les gens les moins recommandables ont tout à fait pignon sur rue.
Alors parlons des gens qui ont pignon sur rue dans la ville de Bangui en Tchétchénie.
Ou
en Libye, c'est pas forcément.
C'est pas moi de déterminer s'ils sont recommandables ou pas.
Vous le sentez bien.
Oui, mais. Par définition, si on devait frayer qu'avec des gens recommandables, si tant est qu'il y en ait, ça servira à rien.
Non, mais je veux dire, vous devez rencontrer un chef de milice qui a des crimes épouvantables sur le dos, du moins lui ou ses hommes, qui fait régner la terreur.
Oui, bon, tout à fait.
J'imagine que dans les théâtres que vous avez fréquentés, c'était pas des enfants de cœur, c'était
non,
pas des correspondants de l'institut.
Ceux qui survivent,
voilà,
c'est sûr.
Voilà, bon. Et il faut louer une relation avec eux.
Oui. Alors, parce que ce sont des outils. L'objectif qui est fixé, c'est de, bon, par exemple, comprendre la réalité d'un pouvoir dans une zone, parlons de la Centrafrique, très bien, et les outils du pouvoir dans ce coin-là, effectivement, ce sont pas uniquement les prêtres, encore que les prêtres catholiques aient encore beaucoup d'informations.
Oui, quoi,
mais effectivement, les chefs de milice, vous allez lier des rapports, parce que la vérité, c'est que ça reste des hommes. Alors, en l'occurrence, c'est essentiellement des hommes. Et quand vous rentrez dans une forme d'intimité, au départ, ils sont pas nés chefs de milice sanguinaires.
Ouais.
Et quand eux aussi jouent un rôle pour maintenir une discipline dans leur troupe et une réputation sanguinaire. Mais si vous n'êtes pas tout à fait, vous n'êtes pas dans leur monde et vous voyez souvent plus leur vraie une forme de visage. Et se crée alors je dis pas une amitié, on est loin de là, mais il peut se créer une intimité personnelle qui est surprenante, qu'on n'aurait pas imaginé au départ.
On est surpris par soi-même.
On est surpris par l'être humain. L'être humain n'est pas le même entre celui qui tient la Kalachnikov, celui qui est devant la Kalachnikov, entre celui qui est chef de milice un jour, mais qui est père le soir aussi, hein, d'une certaine manière. Et donc, les mille facettes de l'espèce humaine sont représentées dans ce métier-là.
Et c'est ça qui est enthousiasmant, j'imagine, non?
C'est ça qui est passionnant. Enthousiasmant?
Non, enthousiasmant, non,
je dirais
bien
pas,
sûr,
parce que des fois, c'est même déprimant. Parce qu'on voit aussi, là j'ai essayé de mettre en avant des choses positives, mais on voit aussi des choses très 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 négatives.
Comme
l'appât du gain, comme la trahison, comme l'absence de confiance.
La violence.
Comme la violence, mais à la limite la violence est un sous-produit. C'est un sous-produit de défauts humains qui sont la cause profonde d'un certain nombre de situations désagréables à gérer.
Donc la violence, c'est pas le dernier problème, c'est ce pourquoi on est violent.
Oui, exactement. Ce pourquoi parfois on est obligé d'être violent. La violence, en fait, elle est souvent, comme on l'anticipe, et ça fait partie de la sécurité opérationnelle d'une mission, on essaye d'avoir des contre-feux ou des capacités à gérer ce... J'ai jamais été très affecté par la violence, mais on est plus affecté par par les facettes les plus noires de l'âme humaine. Et qu'on est obligé, pour le coup, de travailler au corps, parce qu'on joue sur c'est un des leviers.
Et qui est la matière même de votre métier.
Qui est la matière même, exactement. Mais ça peut être parfois... C'est ça le plus fatigant. La violence, c'est pas... On voit effectivement les films. Et si je reprends le Bureau des légendes, qui est très bien fait, pour le coup...
Ouais. Vous vous retrouvez dedans.
Oui, c'est assez troublant, d'ailleurs. Ouais. La violence, c'est pas la violence qui les perturbe le plus. C'est l'incertitude de savoir où ils se situent. Par rapport à eux-mêmes, parfois, par rapport à leurs camarades, par rapport à leurs ennemis, qui sont parfois pas des ennemis. Et cette incertitude, elle est profonde. C'est ce qu'on appelle, dans la théorie, le brouillard de la guerre. On ne sait pas très bien où on est, des fois. Et on peut le risque que vous évoquiez au départ, c'est de se perdre soi-même. C'est-à-dire que de perdre ses valeurs, de perdre ce pourquoi on est là, les objectifs de la mission, mais même les valeurs profondes de l'individu, et de passer du mauvais côté de la force.
Oui, alors ça en viendra sur le mauvais côté de la force et sur toutes les... Mais est-ce que c'est pas lié au fait que vous agissez sans identité, sans loi? C'est-à-dire sans loi, je dirais la loi qui institue, la loi qui borne, la loi qui organise la vie en société. On se rend compte, vous faites l'expérience d'une vie sans loi. C'est quand même une expérience assez extraordinaire, ça.
Alors, sans loi inscrite dans une constitution, mais
il y a... Et sans loi inscrite dans un pays dans lequel vous êtes. Bien sûr qu'il y a une loi, mais ça, c'est quand même... C'est assez particulier, comme expérience.
Oui, c'est assez particulier. On a coutume de dire que c'est un métier de voyou fait par des gentlemen, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à l'ego, vu qu'on n'a pas d'existence normalement réelle. Donc, on est en dehors de la légalité. Pas contre, hein, mais ouais, en dehors.
C'est ça.
Mais par ailleurs, il y a des lois morales, disons, des lois intangibles. Et la principale loi intangible, c'est qu'on travaille pour un bien supérieur, c'est-à-dire en l'occurrence l'État, et l'État français très précisément. Et cette loi, c'est une loi qui doit driver toutes nos valeurs et la manière dont on travaille. À la fin des fins, il faut que ce soit pour le bénéfice de l'État et donc de la nation française.
Et on risque pas de l'oublier quand on est loin dans un théâtre d'opération avec des pris dans un tissu de relations très très particulier.
Honnêtement, je pense que c'est plus difficile à oublier sur le terrain qu'à Paris. Parce que sur le terrain, on est au contraire confronté à la réalité d'un conflit, donc ça durcit les positions, on voit très bien, on se perd pas sur un terrain où il y a un conflit. On peut se perdre quand on est dans un marigot parisiano-français, des fois, où des fois, pour le coup, on ne sait plus où est le bien de l'État français. S'il y a deux services concurrents, par exemple, deux services français concurrents sur une même affaire...
Ça n'arrive jamais, ça.
Ça n'arrive jamais. Oui. Mais imaginons, bon, le cas d'école, ça arrive. Oui. Il est où, l'État final, enfin, l'intérêt final de l'État français?
Il est dans une hiérarchie. Dans une maison, j'imagine que quand on travaille pour la DGSE, c'est pas la DGSI, c'est pas...
Oui, en plus, ce sont deux cultures quand même assez différentes. Mais mes collègues ou ex-collègues de la DGSI ont, j'imagine, la même idée, c'est qu'à la fin, ils travaillent pour le bien de la nation.
Oui, mais qu'est-ce qui distingue justement la culture DGSI de la culture DGSE?
Alors, c'est extrêmement différent. Déjà, le recrutement n'est pas du tout le même. La DGSI, si j'avais un collègue, il m'arrêterait peut-être, mais c'est d'abord une police administrative, une police judiciaire.
Formée au droit,
ce sont quand même des commissaires formés au droit, qui travaillent...
C'est plutôt rassurant pour nous,
oui, tout à fait rassurant, et qui travaillent dans la légalité, et qui sont là justement pour collecter des preuves, des éléments de preuve aboutissant ou pas à des mises en examen et mettre en prison. Nous, ne c'est pas du tout notre...
Oui, mais la DGSI, elle ne fait pas ça, elle fait du renseignement intérieur, donc elle renseigne, elle a des éléments qui vont permettre non pas de nourrir un dossier judiciaire, mais nourrir une décision politique, nourrir un état de l'opinion, nourrir...
Alors, ça dépend...
L'état d'une menace.
Ce que vous évoquez, vous évoquez le contre-terrorisme, c'est d'entraver et d'arrêter les menaces terroristes, donc... en général, ils collectent un certain nombre d'informations jusqu'à ce qu'ils décident qu'il faut arrêter et qu'ils ont suffisamment des éléments judiciaires suffisamment probants pour aller jusqu'au procès et donc embastiller les terroristes. Bon, si vous parlez du contre-espionnage, c'est-à-dire contre des des États amis ou ennemis qui nous espionnent. Et là, bon,
la limite entre État ami et État ennemi est un peu floue à ce niveau-là, non?
Oui, ça va. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'amis.
Oui, c'est ça. Il n'y a ni l'un ni l'autre.
On se renseigne tous les uns sur les autres. C'est pas parce que on est dans la même alliance politique et militaire qu'on n'est pas obligé de se renseigner sur son voisin. Et donc là, c'est une autre logique. Là, vraiment, ils rentrent dans une logique politique qui est plus proche de la nôtre. D'ailleurs, le contre-espionnage de la DGSI n'est pas si loin de nos façons de travailler, où on constitue des dossiers, du renseignement pour alimenter une décision. Et là, effectivement, il y a une. Mais nous, on travaille DGSE, on travaille à l'étranger, normalement, à 100%, et on peut travailler sur, en dehors de la légalité du pays français, enfin de la France, parce que on travaille dans des zones de conflit ou on travaille dans d'autres pays où, par définition, faire de l'espionnage de mémoire, c'est illégal.
Oui, bien sûr, mais pas dans l'illégalité en France.
Pas dans l'illégalité en France, tout à fait.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme.
France Culture, matière à penser. Antoine Garapon.
Matière à penser qui reçoit ce soir François, un ancien du service action de la DGSE pour comprendre la vie quotidienne d'un agent en opération extérieure et qui a choisi de nous faire écouter The Partisan de Leonard Cohen. Pourquoi The Partisan?
Parce que on a tous nos mythes et moi dans les grands hommes hein, qui font les mythes des uns et des autres, moi j'ai Jean Moulin et The Partisan, au-delà de la voix extraordinaire de Leonard Cohen, c'est une histoire sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et voilà, c'est Jean Moulin et mon second mythe personnel c'est Georges Clemenceau.
Qui était aussi une forme de résistance, mais de résistance à l'ennemi, là, en l'occurrence.
Tout à fait, des grands hommes d'État, en tout cas.
Est-ce que ça veut dire, François, que dans l'idéal d'un agent secret, d'un service action, il y a ce mélange à la fois de la guerre et de la résistance, finalement de faire une action politique pour l'État, au service de l'État, mais au plus près de la violence?
Oui, je pense qu'il faut avoir une appétence naturel pour le risque, en tout cas. Oui. La violence est un des produits, comme on disait, mais pour le risque. Ça, c'est clair que ça attire, ça génère de l'adrénaline. On y est tous sensibles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur les terrains où on travaille, on rencontre d'autres typologies de gens qui sont des journalistes de guerre, des grands photographes, des humanitaires ou des militaires. Et on partage au moins cette envie de vivre des choses ou des moments de vie assez rares, où la violence
est intense,
où la violence génère justement cette intensité. Ça, c'est clair.
Et vous avez été servi, j'imagine.
Oui, j'ai été servi, oui.
Mais L'adrénaline, ça veut dire deux choses. L'adrénaline, c'est la peur. C'est la peur, mais la peur de quoi?
Alors, ça dépend, et encore de là où on travaille. Déjà, la peur de faire mal son job, hein. C'est comme la première peur.
Mais et à de titre, pas obtenir le renseignement.
Et de pas obtenir le renseignement, ce qui arrive quand même. Ouais. Ensuite, on a chacun des peurs. Mais là, je pense une des peurs les plus répandues, en tout cas chez moi, c'est la peur de l'enlèvement. Parce que, par définition, comme on travaille pas officiellement pour l'État français, il va pas pouvoir revendiquer et nous échanger comme un prisonnier de guerre. Et on n'était plus à l'époque de la guerre froide où on traversait Checkpoint Charlie à Berlin pour être échangé contre un espion soviétique. Là, si on était enlevé pour des mauvaises ou de bonnes raisons, enfin, on n'est jamais de bonnes raisons, mais par une milice quelconque, ça pouvait être très 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 long. Et il y a des exemples extrêmement douloureux, récents, qui montrent que c'était pas du tout une vue de l'esprit. Donc ça, c'était une peur, une crainte réelle et permanente.
Et sourde. Parce que c'est tout le temps la crainte de l'enlèvement.
Et sourde, ouais, tout à fait. Pour le coup, je me rappelle, j'avais passé un certain nombre de nuits seul dans une grande maison à la frontière afghano-turkmène. C'était il y a un certain temps. Totalement à la merci, mais alors totalement à la merci des uns et des autres en local qui étaient dans l'affrontement. Et bien sûr, il y avait un gardien de la maison, mais il avait jamais qu'un bâton. Et voilà. Et là, effectivement, quand on entend un bruit la nuit, ça réveille assez vite.
Ouais. Oui, mais j'imagine. Et on a peur pour les autres parce qu'on travaille en équipe, non?
On a peur pour les autres. On a peur pour ces hommes. Hein. Les autres.
Oui, non, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est ce que je voulais dire. On a peur aussi pour l'humanité.
Ouais, 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 c'est un petit peu plus lointain. On a peur pour ces hommes. Et quand on est à Paris et qu'on pilote des missions qui sont parties, c'est un autre style de peur, mais qui est encore plus permanent. Parce qu'il n'y a pas l'adrénaline pour compenser. Quand on est sur le terrain, on a peut-être peur, mais on a l'adrénaline qui compense. Quand on est à Paris, qu'on envoie ces équipes, on a juste la peur.
Et la peur avec l'impuissance qui va avec, qu'on voit très bien d'ailleurs dans le bureau des légendes, c'est-à-dire qu'on est loin, si ça va pas, même avec les moyens modernes, ultra-modernes, on maîtrise pas vraiment ce qui se passe sur le terrain.
Oui, et puis les moyens ultra-modernes garantiront rien de rien, à part que nos chefs seront plus vite qu'on a été enlevés éventuellement. Ouais. Mais non, effectivement, il y a un isolement et une solitude qu'il faut apprendre à gérer, parce que si on n'arrive pas à la gérer, on va faire des bêtises. Parce que en essayant de briser cette solitude, on va avoir envie de se rapprocher de gens, et la tentation elle est de raconter la vérité pour pas se sentir seul dans sa propre tête. Et ça, c'est le début de la fin pour le coup, parce que un secret partagé par deux personnes, c'est plus un secret. Donc c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Alors, la réalité, c'est que le plus simple, c'est de se noyer dans le boulot. Plus on travaille, et moins on a le temps de penser. C'est le cas pour beaucoup de gens, mais en l'occurrence, ça marche très bien sur le terrain.
Oui. Mais il faut rendre des comptes.
Il faut rendre des comptes, et même le principe même. Il faut rendre compte tout le temps.
Il faut rendre compte tout le temps.
Et là, il y a une problématique dans le rendre compte, parce que ce qu'on vit sur un terrain... quand c'est couché sur un papier, parce que souvent on a des comptes rendus écrits, quand c'est couché sur un papier, c'est comme un mail, on est dans l'incapacité de donner toute la subtilité, tous nos doutes. Donc en fait, finalement, on fait des comptes rendus très factuels qui ne disent rien aussi peu de la réalité de ce qu'on peut vivre. Ce qui est intéressant, c'est quand on a un patron qui a déjà vécu ça, parce qu'il sait très bien lire entre les lignes ou sentir les lignes faibles. Le risque étant d'avoir un patron qui vient d'ailleurs, qui n'a jamais vécu ce sentiment-là, et qui va pas ni le détecter ni rien voir, parce que dans les plusieurs milliers de personnes que constitue la DGSE, ceux qui font ce type de personnes, c'est pas plus de quelques dizaines
qui font le service action.
Oui, ou ce type de mission, il y a pas que le service action, mais ce type, ou quelques dizaines ou quelques centaines au maximum.
Ah oui, c'est très peu.
C'est très peu in fine. C'est très peu. En renseignement humain, c'est très très peu. C'est compliqué, c'est risqué sécuritaire pour la personne, mais c'est risqué politiquement. Parce que si vous avez un clandestin qui est dévoilé par une puissance ennemie, ou amie même, ça peut vite tourner à l'imbroglio diplomatique.
Et sans parler des craintes de retournement.
sans parler des craintes de retournement. Alors, les craintes de le retournement est un objet qui ne se fait globalement qu'entre services de bon niveau. Et, disons la division 1, la Ligue des champions des services. Les Russes, les Chinois, les Américains, les Anglais, les Français, les Israéliens. Bon.
Parce qu'il n'y a pas tant que ça de pays au monde qui font qui sont des
vrais
dans la Ligue 1.
Oui, oui, non, il n'y en a pas tant que ça. C'est comme un club assez fermé et puis il n'y a pas beaucoup d'entrants, de nouveaux entrants. Et donc c'est quand même contre ces grands services de renseignement que ce grand jeu obtient toutes ses nettes de noblesse. Et c'est là où, effectivement, c'est le risque du retournement. Ensuite, on n'est jamais retourné que parce qu'on veut bien l'être. Hein. Donc il faut avoir des failles, des fractures qui vont être exploitées et qui vont être travaillées et que un ennemi va pouvoir faire amplifier. Tout le job du contre-espionnage en interne, c'est bien de détecter s'il y a des failles qui apparaissent chez un individu, ce qui n'est pas simple.
Ouais, oui, j'imagine. J'imagine, mais quand on est aussi peu à faire un métier à aussi fort taux d'adrénaline, est-ce qu'il n'y a pas une frustration avec les gens de Paris, avec l'analyste, avec celui qui n'a jamais quitté Paris, avec celui qui ne dit pas tout, avec celui qui, ou celle d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés de communication ?
Il y a sans doute des difficultés de communication, mais elles ne sont pas dans ce sens-là. Il n'y a pas tellement de la frustration. Il y a plutôt... On a quand même le sentiment d'appartenir à une certaine élite, même chez nous. Donc à partir de là, on est plutôt plus envié qu'autre chose. Donc de notre côté, nous, les opérationnels, on n'a pas de frustration particulière. Que les analystes ne comprennent pas tout à fait ce qu'on puisse dire, que les politiques ne s'en saisissent pas, c'est la loi du genre. Ça fait partie des procès, ça marche pas. Par contre, la frustration, elle est plutôt dans l'autre sens. C'est ceux qui ne partent jamais, et pour différentes raisons, et qui ne vivent pas tout à fait la vie que vous évoquiez au départ, du Bureau des légendes. Et effectivement, les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui vont rentrer, veulent rentrer, ils veulent vivre, les hackers, les autres, ils veulent être des espions, on dit. Alors qu'on dit, on n'emploie jamais ce vocable.
Jamais.
C'est officier de renseignement.
Ou
officier traitant, mais jamais espion. Espion, c'est les méchants. Hein, c'est la terminologie. Mais ce qu'ils veulent vivre, c'est cette vie-là. Et in fine, il n'y a pas 5% qui vont la vivre.
Oui, et puis il faut travailler dans une grande organisation avec d'autres organisations, comme vous le disiez, la DGSI, et dans lesquelles il y a, quand retourner à Paris, j'imagine, c'est retourner un peu dans la bureaucratie.
Oui, alors, dans mon cas, je suis jamais retourné dans la bureaucratie.
Très bien, mais jamais rentré à Paris.
Ouais, presque, en fait. J'y allais jamais, en fait. J'y suis très, très peu.
Dix ans, ça veut dire 10 ans hors de Paris.
En dehors des... je pouvais être à Paris, mais en dehors de l'institution boulevard dans l'Est parisien, je n'y allais jamais. Donc, j'ai jamais souffert de la bureaucratie. J'avais mon équipe autonome, mon argent et 3 ans de travail devant moi. Donc, j'étais pas très embêté. J'ai mangé mon pain blanc, j'en suis conscient.
Avec une liberté quasi totale d'employer cet argent, diriger l'équipe.
Non, bien sûr que non. Les fonds spéciaux sont extraordinairement contrôlés par des contrôleurs internes, ensuite qui sont même contrôlés par le Parlement. Non, on fait absolument pas du tout ce qu'on veut avec l'argent. Et au contraire, faut bien se rappeler que c'est quand même une bureaucratie. Mais par contre, dans une administration, moi, je bénéficiais, mais par structure. C'est-à-dire que c'est difficile de donner un ordre quotidien à quelqu'un qui se trouve dans une zone inatteignable, avec très peu de communication, avec un décalage culturel très important. Donc, il faut bien laisser un minimum de liberté.
Et le lien avec les autres, j'entends par les autres, les militaires, mais militaires, l'armée, les diplomates, vous n'allez pas, vous parlez pas beaucoup des diplomates, mais j'imagine qu'il y a des diplomates là
alors,
où vous allez.
Oui, mais oui et non. Un, il se trouve que dans les zones de guerre, ou les zones peu reconnues par la communauté internationale, il n'y a pas d'ambassade.
Ah oui. Déjà, donc il n'y a pas de diplomate.
Il n'y a pas de diplomate. Et les diplomates, on les fuyait comme la peste. Parce que, en plus, même d'un point de vue, le diplomate n'est pas toujours quelqu'un de... Parfois, son job, c'est quand même de parler aux locaux. Et je vais pas... Ça va pas être une source de renseignement pour moi. Ça voudrait dire que je vais demander à un diplomate français ce qu'il pense. Ça tournerait en rond. Moi, mon travail, c'était de parler aux locaux. quelle que soit leur fonction, du ministre jusqu'au chauffeur de taxi. Ne jamais négliger les chauffeurs de taxi. Mais pas du tout parler aux diplomates
français. On apprend des choses du chauffeur de taxi.
C'est incroyable ce qu'on peut apprendre d'un chauffeur de taxi. On peut comprendre ce que pense le peuple. Justement, si on se limite au cocktail diplomatique, on n'est pas prêt de voir venir la révolution en Tunisie. Je prends un exemple comme l'autre.
C'est ça. Et donc, ça veut dire que s'immerger dans une population.
Oui. S'immerger au plus proche. Alors ensuite, on reste occidental. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un visage qui peut être s'intégrer dans pas mal de populations, qui peut passer partout. Et donc, à partir de là, oui, d'être au plus proche, de connaître, d'aller au bazar, d'aller au souk, pour sentir. Et sentir, c'est ces fameux signaux faibles qu'on évoque tout le temps, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'ils sont, c'est-à-dire une perception instinctive qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est pas facile à faire passer. Aussi, même dans un compte-rendu que vous évoquiez tout à l'heure, vous allez dire à votre chef, j'ai l'impression, parce que j'ai discuté avec le chauffeur de taxi, qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a un mouvement populaire de fond qui est en train de se tramer. C'est pas très objectifant. Et même s'il y a une source sécuritaire qui nous dit oui, on est en train, nous aussi, de trouver qu'il se passe des choses, ça reste ça reste de l'humain et donc c'est pas objectif et ce n'est pas une interception satellitaire, ce n'est pas du hacking informatique, c'est de l'humain. Et donc l'humain est toujours suspect. Aujourd'hui, il y a une petite tentation des services de renseignement de tout mettre sur la technique. Parce que la technique, c'est froid, c'est objectif.
C'est plus propre.
Ouais, c'est plus propre. Sauf que si c'était contenté de la technique, les Américains n'auraient jamais identifié la localisation de Ben Laden. Parce qu'il avait bien compris que la technique pouvait le trahir. Et c'est bien du renseignement humain qui l'a trahi.
Ça veut dire qu'on se parle beaucoup entre services de renseignement sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une communauté qui vient de ce que on passe beaucoup de temps ensemble dans des coins pas possibles, loin de tout?
Non. Oui et non. Alors absolument pas sur le terrain, parce que par structure, on ne sait pas qui est qui.
On le devine un peu, non?
C'est-à-dire qu'un clandestin américain, ça se voit d'assez loin. Ouais. Par contre, les services de renseignement à l'échelon institutionnel se parlent beaucoup, bien sûr. Il y a des échanges organisés comme les échelons policiers. C'est tout à fait logique. Ensuite, il y a un jeu de poker menteur qui se met en place. Mais sur le terrain, non, il n'y a aucun échange.
Et donc, vous n'avez pas participé, vous, à ces échanges internationaux avec les renseignements?
Non, parce que, comme on disait tout à l'heure, on n'est jamais tout à fait ami ni jamais tout à fait ennemi. Donc, même si je me présentais sous un autre nom, j'aurais du mal à changer ma biométrie faciale.
Oui.
Donc, si je repasse une autre frontière avec un autre nom, ça va être délicat à expliquer.
Mais vous parliez de biométrie faciale, il y a la langue aussi, il y a la culture, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce travail de renseignement, ce qu'on en lit, et ce qu'on en lit, mais ça ressort bien du Bureau des légendes aussi, il y a une imprégnation culturelle. Et c'est peut-être ce qui fait la force des services français, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, vu qu'on n'a pas des moyens absolument démentiels. Et je prendrais même l'exemple de l'empire colonial français. Il s'était fait beaucoup par cette imprégnation culturelle, peut-être un peu trop importante d'ailleurs à la différence des Anglais. Mais de fait, les Français, culturellement, ont une appétence pour les cultures. Par exemple, l'Afghanistan. Pendant 40 ans, les Français vont en Afghanistan, même en plein milieu de la guerre, parce qu'ils ont envie, ils aiment ce pays. Effectivement, moi, j'ai eu la chance d'y travailler. C'est un peuple fascinant, les Afghans. Mais on a un vrai amour de ces cultures-là. Et qui est peut-être moins le cas. Alors, je vais pas non plus casser du bois sur mes collègues américains, mais ils ont moins cette ouverture d'esprit, cette envie d'aller vers d'autres cultures que nous. Ça, c'est clair. Donc, on compense, effectivement, on est très proche. On peut être très proche. Alors, c'est pas le cas de tous, mais on peut être très proche de nos cibles, entre guillemets. C'est en étant le plus proche possible de nos cibles de renseignement qu'on peut les comprendre.
Et aussi la langue aussi, parce que ça c'est très important. Le Bureau des légendes, il parle arabe,
et donc
les aptitudes linguistiques et culturelles semblent être quand même, vous le disiez à l'instant, un marqueur des services français, mais ça fait aussi, ça veut dire que c'est quand même un travail immense de pouvoir par exemple parler le farsi, parce que c'est le farsi qui parle, une forme de farsi qu'on parle en Afghanistan, non?
Ça dépend. Oui. Il y a le pashtou, le farsi, l'ourdou, il y a un peu de tout. Oui et non. Alors parce que De deux choses l'une. Soit on prend du français d'ascendance gauloise et on lui fait apprendre le farsi. Ouais. Mais on, il ne viendra jamais farsi, farsophone ou persophone. Jamais. À ce point-là. Il pourrait même très bien parler sans l'aide totalement. Soit on s'appuie sur des Français de deuxième ou troisième génération qui sont d'origine d'ascendance algérienne, d'ascendance afghane. On a de tout en France.
Ce qui est une force.
Ce qui est une force, mais il y a une réticence des services de renseignement parce qu'ils se sont historiquement appuyés, en tout cas les services extérieurs, sur une colonne vertébrale militaire assez classique. Et on n'a pas su, on ne sait pas encore très bien, mais c'est un des chantiers à mettre en avant, utiliser cette force, ce multiculturalisme français.
Et quels sont les autres chantiers qu'attendent les renseignements, et notamment les renseignements français, qui se distinguent par quand même leur relative faiblesse par rapport aux services anglais, par exemple, tout proche de nous?
Alors, ce que je disais en tout début d'émission, Antoine Garapon, c'est que être dans les services de renseignement, en sortant d'Oxford ou Cambridge, pour les Anglais, c'est très chic. Et après, une carrière politique les attend, une grande carrière dans la City.
Pas de problème.
Aucun problème, ça sera très très valorisant. Pendant des décennies, c'est extrêmement peu valorisant. En France, c'est en train de changer. Mais justement, l'idée, c'est de que on offre aux officiers de renseignement, qu'ils soient civils ou militaires, des capacités de carrière après dans la haute administration ou dans le politique. On a un député européen qui est le premier ancien des services de renseignement, ouvertement ancien, qui soit député européen. C'est une bonne brèche à exploiter. C'est exactement ça.
Et qui fait beaucoup d'ailleurs pour, j'allais dire, rendre une sorte de noblesse démocratique au renseignement.
Tout à fait.
Qu'il n'avait pas en France par rapport à d'autres cultures, et c'est bien dommage. Mais est-ce que ça veut pas dire aussi qu'il faut, comment dirais-je, oxygéner les carrières? C'est-à-dire qu'il y ait des périodes, je pense à la diplomatie, mais je pense à d'autres fonctions, je pense aux militaires aussi. C'est-à-dire qu'il y ait des périodes de renseignement et en même temps, cette porosité avec la société civile, qui est une faiblesse paradoxalement des services français.
Tout à fait. C'est une faiblesse qui a été identifiée. Et qui est en train d'être résorbé, parce qu'il y a toujours un paradoxe, hein, il y a une contradiction interne, c'est s'oxygéner, s'ouvrir, tout en gardant une sécurité maximale, donc se fermer. Donc, c'est les deux.
C'est ça, c'est le grand paradoxe du renseignement.
C'est le grand paradoxe du renseignement, il faut être ouvert sur les autres, mais totalement fermé, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais il y a une vie, ce sera ma dernière question, François, il y a une vie après le renseignement. Pourquoi un métier aussi palpitant, pourquoi on décroche?
On décroche parce qu'il y a plusieurs métiers dans ce métier-là, et que moi, à titre personnel, j'avais sans doute fait le plus beau des métiers. La vie n'aura jamais été aussi palpitante, et donc il vaut mieux changer de milieu tout court.
Voilà. Merci beaucoup, François.
Merci, Antoine Garapon.
Matière à penser avec François ce soir, Joséphine Lampreya, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donné, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain soir, je vous donne rendez-vous avec Michel Delépine, qui est commissaire divisionnaire spécialisé en renseignement territorial. Bonsoir. We'll be right back.